agir. Telle est la vie des deux contemplatifs. C'était bien ce qu'espérait François. La contemplation viendrait plus tard, à son heure. L'homme aux semelles de vent. D'un voyage que François fit en Espagne, il ne nous reste qu'un bref récit de Celano et des conjectures. Peut-être alla-t-il à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais son ambition était de se rendre au Maroc et d'y convertir le sultan qu'il appelait le Miramoline, ce qui n'excluait pas le perpétuel espoir du martyr. Telle était son ardeur d'atteindre le but de son voyage que son compagnon avait peine à le suivre. Car par moments, François prenait le pas de course. Mais une fois de plus, comme à Spolète, comme à Ancône, la route lui fut barrée. Il tomba malade et dut rentrer en Italie. À distance, on comprend ce qu'on pourrait appeler les incertitudes de sa joie quand il se vit désigné dans les rochers de l'Alverne le lieu idéal de sa vie solitaire. De même, la joie s'en mélange quand deux contemplatifs lui conseillèrent d'agir. Pour reprendre l'expression chère à Baudelaire, il y avait en lui une double postulation. Non vers Dieu et le diable, certes, mais vers bouger et rester en place. Disons plutôt agir et contempler. En Espagne, il retrouvait l'énergie des jeunes années pour se hâter sur les routes, courant non vers le plaisir, mais vers le martyr. On ne se transforme jamais tout à fait. François demeurait fidèle à sa nature. Il n'y avait que la direction qui changeait. De toute façon, il était clair que la Providence le voulait en Italie. Revenu à la Portioncule, il acheva sa convalescence et, doucement incorrigible, céda de nouveau à l'attirance de la route. Aucun espoir de martyr en Ombrie, mais l'action, la prédication, la visite des petits groupes de frères dispersés dans la campagne ou retirés dans les ermitages, car il en arrivait de plus en plus de ces hommes pauvres ou riches qui délaissaient le monde et qu'on voyait deux par deux, l'un derrière l'autre, priant et marchant dans les chemins. Nombreux étaient ces inconnus dont François avait jadis entendu les pas. Il fallait les voir, les instruire un peu. Et puis, il y avait ceci qu'on ne peut pas oublier. François était un homme de plein air. On ne le voit pas enfermé trop longtemps dans une cellule de couvent. La route, les grands chemins, la parole de Dieu semée à tout vent. La contemplation ne pouvait être écartée, sans aucun doute. Elle trouvait sa place au cœur de la nuit. Le jour, il fallait agir. Et au fond de tout cela, la nostalgie du martyr. Il viendrait plus tard. Suprême récompense avant l'entrée au paradis. Certes, mais pas comme il le pensait. En attendant, il se mit en route avec frère Léon pour évangéliser encore la vallée de Rieti, qui n'en finissait toujours pas d'être païenne. Ce ne pouvait être une pénitence que se promener dans ce paradis. L'Italie n'a rien à offrir qui parle plus directement au cœur que ces collines en pente ombreuse où les cyprès se dressent comme des veilleurs autour des villages, des champs et des prés à l'herbe épaisse. On ne s'étonne pas que ce paysage se soit si profondément accordé à l'âme de François d'Assise. On s'étonnerait plutôt qu'à un moment ou l'autre de l'histoire, un saint François n'eût pas surgi du sol dans ce coin enchanté de l'univers. Une nature d'une séduction aussi doucement spirituelle appelait l'homme assez près du ciel pour lui faire entendre un jour le chant extatique de la terre. François jetait autour de lui le regard d'un amoureux toujours émerveillé. L'habitude n'y faisait rien. Tout gardait sa puissance. Tout restait nouveau. Nouveau comme Dieu. Ainsi, François portait en lui cette terre d'Ombrie dont ses vêtements